إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والحمد لله الذي وفقنا لنكون دائما نحرص على الدعوة إلى الرجوع بديننا إلى الأمر الأول الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودائما نذكر الإخوان أنه لا ينكر أحد أن الوجه أو الإسلام له وجوه كثيرة ليس له وجه واحد بل صار له وجوه كثيرة وكاد أن يتستر أو كاد أن يتغطى الوجه الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك في الحقيقة وقد رأيت أن المسلمين فيما بينهم متناحرون تترجمون
طيب
قد رأيت أن المسلمين فيما بينهم متناحرون متخالفون متحاربون بل يحل بعضهم عرض بعض ومال بعض ربما في بعض الأحيان لأجل الاختلاف في الرأي ولذلك دائما ندعو إلى أن يكون الناس على أمة واحدة متفقين على الكتاب والسنة نعم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الشيخ هدي à chaque fois dans toutes nos conférences dans toutes nos interventions on essaie de montrer inshallah le bon visage et le vrai visage de l'islam car aujourd'hui l'islam est présenté sous plusieurs visages, sous plusieurs formes et ça il n'y a aucun doute, chacun le présente selon ce qu'il a compris et on voit les musulmans se diviser et se disputer et à cause de cela se disperser et que certains se permettent de parler sur l'honneur l'honneur de l'un et de l'autre même parfois ça peut aller jusqu'au point d'autoriser leurs biens et leurs personnes et tout cela à cause du fait qu'ils divergent et qu'ils ont chacun montré un visage de l'islam différent. Et en vérité, c'est pour cela qu'on veut montrer, inshallah, le vrai visage de l'islam, ce sur quoi les musulmans peuvent se réunir.
هناك كانت مذاهب أخرى في أول الأمر فكانت سادت ولكنها بادت هكذا قدر الله لكن رأيت أن الناس أصحاب المذاهب فيما بينهم مختلفون اختلافا شديدا حتى إن بعضهم لا يصلي أو لا يجيز الصلاة وراء بعض وليس هذا من دين الله أو من دين الإسلام في شيء ولذلك وقد وجدت أن هناك ناسا متعصبين في بعض البلاد قد يهدمون مساجد الآخرين وهذا أمر واقع رأيت المسجد محروق أحرقه المخالفون وفيه المصاحف وغيرها من الكتب محرقة رأيت هذا الشيء فتحرك في قلبي أن أكتب شيئا وهو بمعنى الاتباع وصول فقه السلف كذلك التقليد كتابا آخر ليس كبيرا إلا أنه بطريقة أو بأسلوب سهل إن شاء الله ما حكم التقليد الذي يوجبه المذاهب فيما بينهم في ضوء الكتاب والسنة رأيت أن التعصب المذاهب تعصب المذهب في الحقيقة يمنع المتعصب للمذهب من العمل بالحديث وهذا أمر واضح جدا ومثاله مثلا الحنفية إخواننا الحنفية الذين يتبعون المذهب الحنفي لا يجيزون صلاة المرأة في المسجد ولا يجيزون دخولها في المسجد وهذا مخالف لأمر الله تبارك وتعالى ومخالف لما كان عليه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النساء تأتي في المساجد وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أبطل الصلاة لكن أسمع من صفوف النساء بكاء الصبي فأوجز الصلاة وخفف الصلاة. كذلك كانت تأتي النساء وهذا أمر يعني لا ينبغي أو لا يجوز أن ينكر، لكن هؤلاء لا يجيزون صلاة المرأة في المسجد. فالتعصب المذهبي في الحقيقة قد يعني قد يوقع الناس في مخالفات شرعية منصوصة واضحة جدا. نعم.
Comme on le sait, il y a quatre écoles juridiques connues chez les gens de la Sunna qui le suivent. Et auparavant, il y en avait beaucoup plus, mais Allah Ta'ala a voulu qu'elles ne restent pas, qu'elles aient été oubliées. Et il y a eu de l'extrémisme et de l'attachement aveugle à ces écoles jusqu'au point où certains rendent invalide la prière derrière les gens de l'autre école juridique, ou bien jusqu'au point où certaines divergences comme celle-ci amènent certaines personnes dans certains pays à brûler carrément la mosquée de l'autre. Et ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc quand j'ai vu cela, cela m'a poussé à écrire ce livre, le suivi et les fondements de la jurisprudence des salafs, des pieux prédécesseurs. Et ceux qui s'attachent aux écoles juridiques aveuglément, on voit qu'à cause de cela, ils tombent plusieurs fois dans des contradictions face à contradictions à l'islam et des contradictions face à la législation islamique. Comme par exemple nos frères, les Hanafi, hein, ceux qui suivent le madhab al-Hanafi, ils interdisent à la femme de prier dans les mosquées. Et ils disent que les femmes n'ont pas le droit de prier dans les mosquées. Alors qu'on voit que cela est contradictoire à l'islam et à ceux qui étaient connus chez les musulmans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allégeait la salat quand il entendait le pleur des enfants au niveau des rangs des femmes. Donc on voit qu'à cause de cela, à cause de leur attachement aveugle, ils délaissent la pratique de plusieurs hadiths et de plusieurs paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وقد لعلي قد أكون قد ذكرت لكم في بعض المجالس أن هذا الإمام بقي بن مخلد الذي ولد في حدود 200 ومات في حدود 76 سنة 76 و200 قال فيه الذهبي الإمام رحمه الله كان إماما مجتهدا صالحا ربانيا مخلصا رأسا في العلم والعمل عديم المثل أو المثل منقطع القرين يفتي بالأثر ولا يقلد أحدا يفتي بالأثر ولا يقلد أحدا. فقد آذاه المالكية وأذاقوه الأمرين حتى فتح الله عليه، ذكر ابن الفرضي الأندلسي وكذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله الزاهري قال كان محمد ابن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس محبا للعلوم عارفا، فلما دخل بقي الأندلس بمصنف ابن أبي بكر بن أبي شيبة وقرأ أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف. الأصل فيه أن مذهب مالك رحمه الله ما نقل ابن القاسم وغيرهم من إرسال اليد وغيره كان قد انتشر في الأندلس والمغرب العربي عامة. فذهب بقي بن مخلد إلى بغداد ودرس هناك على الإمام أحمد وغيره من الأئمة ونقل معه كتاب في بعض السنين بعد 245 أو 50 مصنف ابن أبي شيبة. مصنف هذا كتاب في الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك آثار الصحابة. لما نقل وبدأ يدرس ويدرس الطلبة فقالوا هذا يخالف مذهبنا، أهل الرأي المقصود منها المالكية الذين كانوا جامدين على مذهب مالك، قالوا هذا يقرأ علينا أشياء يخالف المذهب، ونشطوا العامة عليه. جاء فيه أنهم حرضوا وحثوا العامة فآذوه ومنعوه من القراءة من قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحضره صاحب الأندلس محمد الخليفة في ذاك الوقت أو الأمير وتصفح الكتاب جزءا جزءا حتى أتى على آخره ثم قال لخازن الكتب هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه يعني كتاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل أيضا على أن الأمراء الحمد لله أمراؤنا أمراء المسلمين ينبغي أن نكون على حذر من ذكر مساويهم لهم محاسن كثيرة وكانوا يعتنون بالسنة ويعتنون بالمكتبات وكانوا يجعلون خزائن المكتبات فقال هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه فانظر في نسخة لنا خازن الكتاب يعني ينسخ منه ثم قال لبقي انشر علمك واروي ما عندك ونحاهم أن يتعرضوا له نقول هذا هو التعصب المذهبي الذي يجعل الإنسان حتى يبغض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك في الحقيقة ينبغي أن نذكر الإخوة أن الذين يتعصبون للمذاهب ما وجود أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة فيهم نقص في حب رسول الله حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
Il y a parmi les anciens une personne qui s'appelle
Ibn Makhlad.
Donc il y avait Baqi ibn Makhlad, qui était une personne qui avait étudié en Irak et qui a été en Andalousie. Il est né en l'an 200 et mort en 276 de l'Égypte. L'imam al-Dhahabi a dit en parlant de lui, c'était un imam qui était mujtahid, ça veut dire qui faisait l'effort de déduction, qui était un éducateur véridique, sincère, une tête dans la science et dans les actes. Il avait très peu de gens qui étaient à sa hauteur. Et il a dit qu'il faisait la fatwa sur le raï, sur le athar, afwan, et qu'il ne suivait aucune école juridique. Donc il faisait la fatwa selon la sunna et selon les hadiths. Quand il a été en Andalousie, l'Andalousie suivait le madhab maliki. Et les maliki qui étaient en Andalousie, ils lui ont fait du mal. Et ils l'ont combattu à cause du fait qu'il ne suivait pas le madhhab, mais qu'il faisait la fatwa selon les textes et selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il avait ramené avec lui le musannaf d'Ibn Abi Shayba avec lui, où il y avait plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et athar des sahaba radiyallahu anhum. D'ailleurs, Ibn Hazm et Ibn al-Fardi, ils ont rapporté que quand il était là-bas, ils ont tout fait pour lui nuire. Et le émir à l'époque de l'Andalousie, c'était Mohammed ibn Abdelrahman. Et ils ont essayé de lui parler, le convaincre que cette personne, il vient avec une nouvelle religion, avec des nouveaux avis, essayer de faire tout pour le faire arrêter d'enseigner et de faire la fatwa. Quand le émir l'a fait demander, il lui a demandé de lire ce qu'il avait. Il a vu qu'il y avait dans le Moussannaf des trésors, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il donnait une grande importance à la science. Donc il a demandé au responsable de sa bibliothèque de prendre et de faire une copie de ce livre-là, car il a dit que c'était un livre qui était très utile. Donc ils ont fait la copie du livre et il lui a dit laissez-le enseigner et continuer à faire la fatwa. Donc il a interdit après cela aux gens de lui nuire. Et ça on voit aussi, barakallahu fikoum, que les dirigeants des musulmans ils ont eu un rôle très important pour préserver la religion à travers l'histoire, car ils donnaient de l'importance à la science. Et souvent, les gens pensent à énoncer leurs méfaits, leurs manquements, mais ils n'énoncent pas leurs bonnes choses, ce par quoi, par leur cause, le fait qu'ils aient préservé les livres, qu'ils aimaient les savants, qu'ils aidaient les savants, qu'ils les encourageaient. Et c'est comme ça que cette science, elle nous est, alhamdulillah, parvenue jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. معلوم أن كتاب الله عز وجل لا شك فيه أن هناك فيها مسائل واضحة جدا في صفات الله عز وجل، ولكن أصحاب المذاهب خاصة قد تبنوا في العقيدة المذهب العشري أو مذهب أبي الحسن العشري، وفيه تأويل الصفات، وكله بشبهة أن ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فمسائل كثيرة مثل هذه في الحقيقة أولها، في حين أننا نقول دائما أن من أشد الناس جهلا في ذاك الزمان أصحاب البادية، إذا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون من صفات الله عز وجل وأسمائه، ما كانوا يستشكلون شيئا ويفهمونه على معناه الحقيقي. وذكرت لكم أيضا من قبل أن الناس أصحاب المذاهب كلهم اختاروا وقسموا أنفسهم في عدة جهات، ففي المسائل الفرعية جعلوهم مالكية شافعية حنبلية حنفية، وفي مسائل العقيدة جعلوا أنفسهم أشاعرة ولم يأخذوا عقيدة الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم الذين هم تعصبوا. لكن التاريخ يشهد أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كانوا أشد الناس اتباعا للنصوص، وكانوا هم رمز تصحيح العقائد في كل زمان، إلا بعضهم قد مال إلى الدنيا وأخذ كما ذكر ابن عقيل وغيرهم دخل في الفلسفة. من هذا الصدد في الحقيقة أن ضياء الدين المقدسي رحمه الله كان في الشام في الجامع الأموي. أنا دائما أذكر أنه من أبشع ما يكون من مساوئ التقليد المتعصب أن الناس ما كانوا يصلون جماعة واحدة في حرم الله تعالى. فالحنفي له مقام ومصلى، كل الحنفية يجتمعون هناك وكانوا يصلون، كذلك المالكي، كذلك الشافعي، كذلك الحنبلي. وهذا في الحقيقة مما لم يرضي الله تبارك وتعالى، هذا الاختلاف البشع. فكان وإلى الآن في المسجد الأموي في دمشق موجودة هذه المحاريب والمصليات المختلفة، كل مذهب يصلي على وراء إمامه في محرابه. فذكر هنا ابن كثير رحمه الله في سنة 95 وقعت فتنة بدمشق بسبب الحافظ عبد الغني المقدسي، وهو من المذهب الحنبلي يقال، لكن هؤلاء ما كانوا حنابلة في الحقيقة بمعنى التعصب، فذلك أنه كان يتكلم في مقصورة الحنابلة بالجامع الأموي، فذكر يوما شيئا من العقائد، فاجتمع من جملة ما ذكر كما جاء في كتب أخرى أنه قرر أن الله مستوي على العرش، والعشائر يقولون أن الله في كل مكان، فكل أصحاب المذاهب في الحقيقة يعتقدون هذه العقيدة. كذلك تكلم أن الله، هم يقولون أن الله تكلم بالقرآن من غير حرف ولا صوت، شيء غير مفهوم، لكنه أثبت قال لابد من حرف وصوت، والصوت سمعه موسى عليه السلام، أليس كذلك؟ يا موسى اخلع عليك فإنك بالوادي المقدس طوى إلى آخره. وكذلك إذا تكلم الله بالوحي سمعت الملائكة وارتجفت السماوات، كل هذه أحاديث صحيحة. فقال الذين يقولون إن الله لا يتكلم بصوت ولا حرف، كيف يتكلم والله أعلم؟ بل يقولون لا يتكلم، يعني شيء غير مفهوم. فلما قرر ضياء الدين المقدسي رحمه الله أن الله مستوي على العرش وأن الله يتكلم بحرف أو صوت، فاجتمع عليه القضاة. معروف أن أصحاب المذاهب لا يعينون القاضي إلا من يكون على مذهبهم من الأمراء وكذلك من هم متقربون منهم. فاجتمع القاضي ابن التركي وضياء الدين الخطيب بالسلطان المعظم والأمير سارم الدين برغش، فعقد له مجلسا فيما يتعلق بمسألة الاستواء للعرش والنزول. ونحن نؤمن أن الله تعالى ينزل كل ليلة حينما يبقى ثلث الليل الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن. ويقول هل من ألا هل من مستغفر فأغفر له ألا هل من سائل فأجيب له هم قالوا لا ينزل الله تبارك وتعالى فجاء الكلام والحرف والصوت فنجم الحنبلي أحد الحنابلة وافق بقيتهم واستمر الحافظ ضياء الدين المقدسي على ما يقوله ولم يرجع عنه كلهم كأنهم يناظرونه ويضغطون عليه أن يقول مثل ما يقولون لكنه لم يرجع واجتمع بقية الفقهاء عليه وألزموه إلزامات لم يلتزمها يعني أجبروه كأنه أن يقول مثل ما يقولون حتى قال الأمير برغش كل هؤلاء للضلال وأنت وحدك للحق قال نعم لأنه كان ما هو الكتاب والسنة واضح وهو وحيد سبحان الله من بين آلاف من الناس والعلماء كلهم والدولة معهم ما ذلك رحمه الله قد جهر بالحق مثل إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده فقال نعم أنا وحدي على الحق فغضب الأمير وأمر بنفيه من البلد لكنه جاء في رواية أخرى استنظره 3 أيام قال ضياء الدين المقدسي أمهلني في خلال 3 أيام أنا أخرج من دولتك أو من سلطنتك لماذا جاء في تفسير في سيرة ابن كثير وغيرهم أنه قال أراد أن يجمع كتبه وكذا حتى يعني لا يفوته أو لا تفوت الكتب هذه فاستنظره 3 أيام وأرسل برغش الأسارى من القلعة فكسروا منبر الحنابلة ما دام أنتم تقررون أنه 3 أو 4 محاريب تقول لماذا كسروا لأجل الحافظ ابن مقدسي وتعطلت يومئذ صلاة الظهر في محراب الحنابلة وأخرجت الخزائن والصناديق التي كانت هنا خزائن الكتب وجرت خبطة شديدة نعوذ بالله من الفتن كما يقول ثم ارتحل الحافظ عبد الغني إلى بعلبك يعني إلى بيروت ثم سار إلى مصر وجاء فيه أنهم ما تركوا لما اشتهر الأمر أنه يقول بالاستواء ويقول بالحرف والصوت أن الله يتكلم بصوت يسمى فانتشر الخبر من أول ففي بعض الروايات جاء أنه لما وصل إلى بالبك طردوه حتى وصل إلى مصر فلما وصل إلى مصر كادوا أن يقتلوه بسكاكين القلم اللي يبرون منها القلم فآواه المحدثون أهل الحديث الذين يدرسون السنة هم الذين آووه ونصروه فحنوا عليه وأكرموه ونقول مثل هذه التعصبات هل يرضي الله تبارك وتعالى هل الذي يقول بظاهر كتاب الله وسنة رسول الله الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم والذي آمن به الصحابة لا يمكن أن يثبت أحد أنه صحابة رسول الله كانوا على غير هذا فكان ينبغي أن يتركوه أو يتركوا الآن حتى في هذا الزمان لا نمضي إلا أن ننبه أنفسنا حتى في هذا الزمان الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله عقيدة وعملا هو منبوذ والناس يقولون هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أصحاب الخلاف ما يريدون إلا يخالف الناس وكذا فلذلك في الحقيقة على الأقل يعطوه حق الإسلام والمسلمين ولا ينبغي أن يؤذوه نعم
Les écoles juridiques ou les gens qui ont suivi les écoles juridiques ou qui ont prétendu suivre les écoles juridiques, on a vu qu'à cause de cela, ils ont même dévié dans la croyance. On a vu qu'à cause de cela, ils ont dévié même dans la croyance. Pourquoi ? Car en fait, même dans la croyance, ils ne se sont pas attachés à ce que les 4 imams ont dit. Car la croyance des 4 imams était la croyance des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs. Mais ils ont, la majorité d'entre eux, ils ont suivi la croyance de l'école ash'arite. Ceux qui ont interprété les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans droit. Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand étaient révélés les versets sur les noms et les qualités d'Allah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam les acceptaient comme ils étaient. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les affirmait. De même que même quand des bédouins venaient de la campagne, ils venaient et ils entendaient ces versets et ces hadiths. Et il n'y avait pas de problème. Cela ne leur posait aucun problème. Ils l'acceptaient et ils y croyaient. Mais cette chose-là est venue après les premiers siècles, après les meilleurs siècles, venue dévier à cause de la philosophie
et est venu dévier la croyance des musulmans. Et ils sont restés sur cela. Au lieu de suivre ceux qui disent eux-mêmes qu'on suit les quatre écoles, les imams, dans la chose la plus importante qui est la croyance, ils ne les ont pas suivis et ils ont pris une autre école de pensée que l'école même des imams qui était unique dans la croyance, qui était la croyance des gens de la sunna. Une preuve de cela, parmi les quatre écoles, donc les trois écoles ont surtout appuyé l'école Ash'ariya, et sauf les suiveurs de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui étaient plus attachés au hadith que les autres et qui ont défendu justement la bonne croyance, sauf quelques exceptions parmi eux, comme Ibn Aqil, qui a penché vers le dunya pour plaire au gouverneur et qui a accepté leur croyance. Il est arrivé que le Hafiz Diya al-Maqdisi, qui était un savant du hadith, qui disait qu'il était Hanbali, mais eux, ils ne suivaient pas une école juridique, c'est-à-dire ils avaient appris sur cette école-là, mais ils étaient attachés au hadith. Il était en Syrie. Et en Syrie, dans la mosquée de l'Umawi, il y avait 4 mihrab, 4 lieux de prière pour l'imam, 4 places de l'imam. Une pour les malikis, une pour les hanafis, une pour les shafi'is, une pour les hanabilas, pour les hanbalites. Chacun faisait sa prière seul. Ils ne priaient même pas ensemble. Et quand l'imam Diya al-Maqdisi était assis sur le mihrab des hanabilas, il affirmait, selon, comme Ibn Kathir rapporte cette histoire, selon ce qu'Allah Ta'ala a affirmé dans le Coran, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, les qualités et les noms d'Allah, que Allah s'est établi sur le trône, que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a parlé avec le Coran, subhanahu wa ta'ala, le Coran c'est sa parole, et il a parlé avec des lettres et un son. Alors qu'eux ils disent, non, les Asha'ira ils disent Allah il est partout, ou il n'a pas d'endroit. Ou bien ils disent que Allah Tabaraka wa Ta'ala il a parlé mais sans son, sans lettre. Ou bien ils disent carrément qu'Allah est muet. Donc ils réfutent cela. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils réfutent le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala parle. C'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Et alors, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une chose bien claire, et les compagnons, radiallahu anhum, l'ont accepté sans aucun souci. Donc, quand il a dit cela, tous les juges qui étaient sous l'autorité à l'époque de Barrash, qui était leur émir, ils ont été le voir, ils ont dit, celui-là, il dit des paroles d'hérétiques, il dit des paroles qui sont contraires à ce que nous, on connaît. Donc, ils se sont tous réunis, et comme vous savez, les juges, ils sont désignés par qui ? Par les gens qui sont de l'eux-mêmes. Les gens, ils ne désignent que des juges sur la même école juridique qu'ils sont eux. Ils ne vont pas désigner des juges que par leurs compétences. Donc ces juges-là, ils se sont réunis et ils se sont mis devant l'amir, qui était Barrash, et ils lui ont dit, regardez celui-là, Diya al-Maqdisi, il dit telle chose, il dit qu'Allah s'est établi sur le trône, qu'Allah Ta'ala a parlé dans le Coran avec une voix et avec un son et des lettres, que comme il a parlé à Moussa alayhi salatu wassalam, il lui a parlé, Moussa alayhi salatu wassalam l'a entendu, et quand les anges aussi, quand Allah Ta'ala parle, les anges ils entendent. Alors si on prend leur parole, alors les anges et Moussa ils entendent quoi? Si, alors qu'il est clairement dit qu'ils entendent Allah tabaraka wa ta'ala qui leur parle. Donc ils l'ont réuni devant ce Amir Barrash et ils ont voulu polémiquer sur cette affaire. Ils se sont tous réunis contre lui. Même ils ont réussi à prendre quelqu'un qui suivait la même école, Hanabila, parce qu'en fait, dans l'histoire, la plupart du temps, c'était ceux qui suivaient le madhab de l'imam Ahmed qui défendaient la aqida salafia, la bonne aqida. Donc, ils l'ont pris avec lui, ils ont réussi à corrompre Najm al-Hanbali, et ils se sont tous mis contre Diya al-Maqdisi, le hafir, et... Alors l'amir a dit, ils sont tous contre toi, il n'y a que toi qui dis la différence. Ils ont tous tort et toi tu as raison. Il a dit oui, ils ont tous tort et moi j'ai raison. Et le cheikh a dit, c'est comme Ibrahim a.s. qui était à lui tout seul une umma, une communauté, et qui était sur la vérité. Alors l'amir Barrash, il lui a fait quoi? Il l'a exilé du pays. Il lui a demandé 3 jours pour ramasser ses livres, etc. Il a été au Liban à Baalbek. Après il a été en Égypte, et partout ils le suivaient, ils essayaient de lui faire des problèmes, et alhamdulillah, ce sont les gens du hadith qui l'ont protégé et caché. Donc, regardez, le fait de s'attacher aveuglément à une école juridique, ça amène à quoi? Ça amène à repousser le vrai. Ça amène à l'aveuglement. Ça amène à délaisser, même dans la croyance et dans les actes, la vérité avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu.
فلا شك أن من قبائح التعصب المذهبي قد تضررت الأمة شيئا كثيرا على مدى العصور والقرون فمن أعظم وأشد ما يكون على الأمة التفرق والتحزب للتعصب المذهبي وقد أمر الله تبارك وتعالى باعتصام حبله وحبله هو كتاب الله وسنة رسوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيه ذم نهي عن التفرق وذم للتفرق كما قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لكن وقعت الواقعة العلماء كانوا يتبنون التفرق وكانوا يثيرون الخلاف فيما بينهم اقرأوا في كتاب فتح القدير للحنفية وكذلك عندي نصوص كثيرة عن المالكية وغيرهم في زمانهم قال ابن الحمام في كتابه فتح القدير وهو من شرح لكتاب الهداية قال أبو اليسر اقتداء الحنفي لشافعي غير جائز يعني لا يجوز أن يصلي الحنفي وراء الشافعي لما روى مكحول النسفي في كتاب له سماه الشعاع أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده وذهب للركوع إذا قال بعد القراءة الله أكبر ورفع اليد ثم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه هذا مفسد للصلاة بناء على أنه عمل كثير لكن نقول أليس هذا عداء وعداوة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه عند الذهاب إلى الركوع ولا عند رفع رأسه من الركوع أبدا لم يأتي لكنه في مذهب هكذا توارثوا وقالوا إن رفع اليدين مفسد للصلاة بناء على أنه عمل كثير ومنهم من قيد جواز الاقتداء بالشافعي كقاضي خان من علمائهم الكبار قال بألا يكون متعصبا ولا يكون شاكا في إيمانه كيف ذلكم هي مسألة واحدة هل يجوز لك أن تقول أنا مؤمن هكذا أم أنا مؤمن إن شاء الله فأجاز ونجد نصوصا من الأئمة رحمة الله عليهم الذين كانوا في خير القرون أنه جاز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا يزكي نفسه ويقول أنا مؤمن وهم يقولون إذا قال إن شاء الله معناه شاك في إيمانه لا إن شاء الله قد يكون للتحقيق لكنه استعانا بالله تبارك وتعالى أنه الآن مؤمن وإن شاء الله في ما بعد مؤمن لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فأجاز السلف أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله هم يقولون إذا قال مؤمن إن شاء الله فقد شك في إيمانه لا يجوز الاقتداء به هكذا قال هذا الإمام الذي شرح كتاب الهداية التي هي مثل القرآن كما يقول نسخت جميع كتب المذاهب فشارحه صاحب فتح القدير من الأئمة المعروفين عندهم يقول هذا الكلام نقول هذا لا شك فيه أنه مخالف لما أمر الله تعالى بتوحيد كلمة المسلمين نعم
Le suivi aveugle des écoles juridiques, sans aucun doute, elle a fait un grand mal à la communauté et elle l'a divisée. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné, accrochez-vous tous ensemble à l'anse d'Allah et ne vous divisez pas. Donc Allah ta'ala nous a interdit la division et il l'a blâmé. Il l'a interdit et il l'a blâmé. Et on trouve dans les livres des écoles juridiques des catastrophes qui ont été la cause justement de cette division et de s'écarter de la réalité, que ce soit chez les Hanafiya ou les Malikiya. À titre d'exemple, dans le livre Fath al-Qadir de Ibn Humam, qui est dans le madhab Hanafi, qui est l'explication du livre Al-Hidayah. Il faut savoir que pour eux, le livre Al-Hidayah, c'est comme le Coran. il est venu abroger tous les autres livres de fiqh avant. Et c'est ça qui est, sur quoi il se base en tout. Alors il a rapporté que chez eux, il est interdit de prier derrière un imam shafi'i. Car ils considèrent que le fait de lever les mains avant le recours et après le recours, c'est des actes, c'est des gestes qui annulent la prière. Est-ce qu'en faisant cela, ils n'ont pas pris en guerre et en animosité la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'est pas rapporté dans un seul hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cela. Il a toujours levé les mains avant le recours et après le recours. D'ailleurs, il avait dit tout à l'heure, j'avais oublié de traduire le cheikh, que ceux qui suivent aveuglément les écoles juridiques et délaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, ils ont un manquement dans l'amour d'Allah et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'ils les aimaient vraiment, ils les suivraient. De même qu'ils disent que c'est interdit, certains d'entre eux, qui est le Qadi Khan, qui est une référence chez eux, il dit que de prier derrière un chef, c'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains savants, par exemple, parmi les savants qui suivent l'école Jérémie Chefé, qui ont dit « Je suis croyant, Inch'Allah ». Alors que pour eux, s'il a dit « Inch'Allah », ça veut dire « Il doute ». Donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit de prier derrière lui car il a un doute dans sa croyance. Non, ce n'est pas dans le sens « Inch'Allah, j'ai un doute ». C'est dans le sens que nos cœurs, ils sont entre les deux doigts du miséricordieux, ils les tournent comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et lui seul connaît les vrais croyants. Donc, Inch'Allah, si Allah veut, je suis, Inch'Allah, un vrai croyant. Mais ça, il n'y a qu'Allah qui sait, donc il n'y a pas de mal en cela. Donc, regardez comment le fait de suivre une école juridique aveuglément et de s'attacher à leurs livres d'école juridique sans revenir au Coran et à la Sunna, ça les a fait tomber dans la division, alors qu'Allah Ta'ala nous a demandé de tous nous unir selon le Coran et la Sunna.
ومن أعظم مضار التعصب المذهبي لإمام واحد وينبغي أن يكون المسلم يعرف أن كل الأئمة أئمتنا لكن لإمام واحد إذا تعصب فمن مضاره أنه يصدق عليه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما جاء في حديث عدي بن حاتم دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم اتخذوا في النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وكان هو نصراني كان نصراني وكان علق في عنقه صليبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك يا عدي انزع عنك هذا الوطن يا عدي ثم قرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فانتفض عدي بن حاتم قال ما كنا نتخذهم أربابا من دون الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الصحيحة عند الترمذي وغيره قال أليس إذا حرموا حلالا فأنتم حرمتموه يعني هو حلال لكن قالوا حرام فأنتم حرمتموه وأليس إذا أحلوا حراما فأنتم أحللتموه قال نعم هذا يوجد فينا ولا شك فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك هو اتخاذهم أربابا من دون الله ألا يوجد في المسلمين مثل هذا في التعصب المذهبي إذا تعصب لواحد ذكرت لكم من قبل أن هناك بعض المذهبيين قد يجيزون الخمر إذا لم يكن على قدر مسكر يعني إذا كان يسكر 200 جرام و 150 لا يسكر فجاز أن يشرب الخمر ما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح بكل وضوح ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره في رواية أخرى ما أسكر الفرق منه الذي هي 16 ساعة فملء الكف منه حرام لكنهم يجيزون وإذا رأيت كتبهم فسبحان الله يفصلون التفاصيل كأنهم خبيرون بهذا الشيء وأن القدر المسكر من التمر كذا وقدر المسكر من الذرة كذا عندهم بيان وتفصيل وكانوا يأخذون ويتعاطون وهذا لا شك فيه أنه مخالفة صريحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثال آخر أنكم لعلكم سمعتم كلمة اسمها التحليل نحن نؤمن بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد إذا قبل أحد على ما كان عليه في زمن أبي بكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر في زمن في صدر من خلافة عمر طلاق الثلاث كان واحدا في مجلس واحد، إنما الطلاق الثلاث الذي لا يجيز الاجتماع بعد الثالث الذي يكون في كل طهر في 3 أشهر تقريبا في كل طهر طلاق، ويجوز للرجل أن يفارق زوجته بطلاق واحد. وعلى هذا جاء حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، فلما كان عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيانات، فاستشار الصحابة تعزيرا وتأديبا للناس فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. معلوم أن هذا الطلاق الثلاث في الحقيقة فرضنا أنه حتى لو طلق 3 تطليقات في كل طهر فهناك عندهم تحليل، تحليل يقولون يتفق الزوج مع شخص آخر فيعقد النكاح مع المرأة ثم يبيت معها ليلة واحدة ثم يطلقها، هذا يسمى التحليل، وهذا كان موجودا في الجاهلية أيضا، وكان الطلاق موجود عندهم كما ذكرت عائشة في صحيح البخاري وغيره، كان الطلاق في الجاهلية على 4 أنحاء، كان النكاح على 4 أنحاء وكذلك الطلاق ذكرت. فعلى كل حال فهم يجعلون هذا التحليل محللا له بحيث يتزوج مرة أخرى مع هذه المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لعن الله المحلل والمحلل له، حديث صحيح بأسانيد صحيحة وحسنة من حديث عبد الله بن مسعود وجابر رضي الله عنه. جاء بعض شراح الحديث الذين لا يأخذون الحديث إلا ما وافقهم، وإذا لم يافقهم فيكسرونه تأويلا ويضيعون معناه، فقال لعن بمعنى رحم الله المحلل. هذا تفسير، هذا الشرح موجود عند بعض المتعصبين، قال لأن النبي، لأن انظروا كيف يأخذون المسألة من بعيد، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته وفي رواية صحيحة في صحيح مسلم أم اللهم من لعنته أو سببته فجعل لعنتي عليه رحمة، هذا في من لا يستحق، من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال، كل العلماء متفقون على أنه في من لا يستحق، وإلا كل من لعن الله ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم من الرحمة، يعني خالف أمر الله تبارك وتعالى، مع أن لعنة الله ولعنة رسوله على فعله يدل على أنها من الذنوب الكبيرة، الكبائر من علامته أن يكون ورد اللعن لفاعله. فإذا نقول هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله مثل اليهود والنصارى لأن مشايخهم وعلماءهم قد حرموا حلالا وأحلوا حراما. نعم.
Le suivi aveugle d'un seul imam, d'une seule personne, on craint pour cette personne qu'il tombe ou qu'il soit concerné par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont pris leur prêtre et leur rabbin comme divinité en dehors d'Allah. Car Ali ibn Hatim est entré une fois auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit au messager d'Allah, car Ali ibn Hatim était chrétien. Et il a dit au messager d'Allah, on n'a jamais pris nos prêtres ou nos rabbins comme divinités en dehors d'Allah. On ne les a pas adorés. Il n'a pas compris ce verset. Car il a compris l'adoration dans son sens apparent, c'est-à-dire se prosterner, s'incliner. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que quand il ne vous rendait pas, quand il vous rendait licite, ce qu'Allah avait rendu illicite, vous les écoutiez, vous leur obéissiez? Il a dit oui. Et quand il vous rendait illicite ce qu'Allah a rendu licite, vous leur obéissiez? Il a dit oui. Alors il dit, voilà la manière dont vous étiez en train de les adorer. Donc la personne qui prend une seule personne et qui prend toute la religion que d'une personne, qui lui autorise l'interdit et qui lui interdit le licite, alors il est concerné par ce hadith et par ce verset. Comme par exemple, je vous ai déjà cité dans un cours précédent que l'Ahnaf, il voit que de consommer des boissons alcoolisées autres que le vin fait du raisin, si on en consomme des petites quantités qui ne rendent pas ivre, c'est permis. Par exemple, si en buvant 200 ml, ça rend ivre, ils disent qu'on a le droit d'en consommer 100 ml, 150 ml, mais pas 200. Et il a dit, on dirait que c'est devenu des experts dans l'alcool. Dans leur livre, c'est écrit. Tel, de l'alcool de date, t'en bois 180 ml, tu deviens sous. Tel, t'en bois tel ml, tu deviens sous. Comme s'ils étaient experts dans la boisson et dans l'alcoolisme. Il a dit alors que dans cela, il y a une contradiction. Une contradiction claire au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux que sont beaucoup rend ivre, son peu est interdit. Ceux que sont beaucoup rend ivre, son peu est interdit à consommer. » Le hadith, il est clair. Et ils sont venus expliquer ça avec des détails pour interpréter et tordre le sens des textes pour arriver à leur fin et rester dans leurs avis. Il est dit de même comme le fait tahlil. Le fait, par exemple, qu'une personne, elle divorce sa femme, comme vous savez en islam, la personne, elle a droit à 3 divorces maximum. Pas 3 divorces dans la même assise. Car en vérité, au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque de Abu Bakr, et une partie de l'époque de Omar, si une personne divorçait 3 fois dans la même assise, cela ne comptait qu'un seul divorce. Mais au temps d'Omar ibn Khattab, quand les gens ont exagéré dans l'utilisation de ce mot, qui n'est pas dans la sunna de fait de divorcer 3 fois, il suffisait de dire « tu es divorcé, c'est suffisant », alors Omar ibn Khattab a vu qu'ils se sont empressés dans une chose sur laquelle Allah Ta'ala leur avait donné du temps et de la largesse. Donc il a concerté les compagnons et pour les éduquer et pour éradiquer cette manifestation-là qui est de divorcer 3 fois dans la même assise, il a dit, bon, on va leur compter, c'est un jugement spécifique, il a dit, on va leur compter 3. Celui qui dira 3 divorces dans la même assise, ça comptera triple divorce. Comme ça, ils ne s'amuseront pas à refaire ça une autre fois. Donc, il avait jugé cela, Omar radiallahu anhu, mais il est clair que le plus juste, comme Abdullah ibn Abbas a dit, c'est que le triple divorce dans une assise, cela compte qu'un divorce. D'ailleurs, le musulman ne fait pas cela. Si vraiment il veut divorcer, il divorce une fois dans un moment de pureté dans lequel il n'a pas touché son épouse. Et 3 divorces, pour que ça fasse le triple divorce, il aura fallu qu'il la divorce à 3 périodes de pureté différentes, tout simplement. Donc si une personne, ça lui arrive d'avoir fait ses 3 divorces, qu'il a épuisé ses 3 divorces, cette femme, elle ne lui est plus licite, jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme, qu'elle consomme le mariage, et que peut-être un jour ou l'autre, il la divorce, et peut-être ils se remarieront. Et à l'époque pré-islamique, il y avait ce genre de pratique qui était de faire exprès des mariages cachés, comme des mariages blancs, on va dire. Un mariage blanc, il se met d'accord avec une personne pour faire un mariage pour que cette femme, elle lui redevienne licite. Et c'est resté, après l'époque de l'islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celui qui fait cela. Qu'Allah maudisse celui qui fait ce genre de mariage. المحلل والمحلل له
المحلل نعم. الله المحلل والمحلل له نعم. الذي طلب التحليل نعم.
Donc Allah Ta'ala, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a maudit celui qui fait cet acte-là et celui qui l'a demandé. Celui qui a demandé qu'on le fasse. Donc c'est clairement interdit en islam. On n'a pas le droit de se mettre d'accord avec un autre homme, qu'il fasse exprès de se marier avec cette femme et qu'il ait un rapport avec elle, après il la divorce pour qu'on puisse après se remarier avec elle. Ça, c'est interdit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit cette personne-là. Alors, cette école juridique qui est venue dire non, c'est permis de faire cela. Ils sont venus dire oui, c'est permis. Quelqu'un pour pouvoir se remarier avec une femme, il peut le faire. Alors, ce hadith-là, ils ont été l'interpréter à l'inverse de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils ont dit quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui fait cela, il dit non, en vérité, il veut dire qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ils se sont basés en cela sur un hadith, sauf qu'ils l'ont mal interprété. À la fin de sa vie, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, « Ya Allah, tous ceux que j'ai pu insulter ou maudire, alors fais que cette malédiction soit pour lui une miséricorde. » Mais ça, les savants sont tous d'accord pour dire que ça concerne ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insulté ou maudit sans qu'il le mérite. C'est-à-dire, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pu maudire ou dire du mal de lui sans qu'il l'ait mérité, c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour que ce soit une miséricorde pour lui. Mais cela ne concerne pas tous les péchés et toutes les choses sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde et il a maudit celui qui l'ait fait. Au contraire, Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudit une personne qui fait un acte, cela prouve que c'est un grand péché qu'il a fait. Donc cela montre bien que les personnes, en voulant s'attacher aveuglément à leur école juridique, ils en viennent à tricher et à détourner les paroles d'Allah Ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وكما قلت أنهم في مسائل كثيرة في الحقيقة يتركون الأحاديث الصحيحة لأجل مذهبهم فأحد علمائهم قال إنه من المحرمات في الصلاة أن هكذا لفظه من المحرمات في الصلاة أن يسير في الصلاة في التشهد مثل أهل الحديث هكذا قال مثل أهل الحديث الحديث ماذا جاء فيه الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد أقعد 53 من عقد العرب 1 2 3 4 ثم بعد ذلك 53 بعضهم قال هكذا وبعضهم قال هكذا 53 فمن أول ما يجلس السنة أن يجعل أصبعه السبابة مكشوفة مفتوحة والباقية مربوطة هكذا قال هذا المسنف في كتابه الكيداني قال هذا محرم مثل ما يفعله المحدثون سبحان الله ما أن الحديث صحيح واضح جدا جاء بعض المتأخرين من الحنفية نفسه ملا علي قاري قال لولا حسن الظن بهذا الكيداني وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صريحا يعني يقول إنكاره للحديث الصحيح وجعله ما ثبت من الحديث محرما هذا يوديه إلى كفر هكذا رد عليه العلماء بشدة كذلك من مساوي التعصب المذهبي أن المؤلفين عامة لنصر ونصرة المذاهب قد يأخذون في كتبهم الأحاديث الضعيفة وأكثرهم في الحقيقة قد لا يكون عنده تمييز بالصحيح والضعيف لأن قد مرت على المسلمين دهور ما كانوا يرون النظر في الحديث وكذلك كتاب الله لأخذ الحكم منه إنما هو للتبرك فقط قالوا هذا للمجتهدين فقط فقد لا يكون عنده علم بالضعيف والصحيح لكن إذا وجد حديثا من أي نوع كان موافقا للمذهب فيستدل به وإذا أردتم أن تعرفوا طلبة العلم خاصة في هذا الزمان ما يخفى عليهم إذا أراد أن يعرف الأحاديث الضعيفة في المذاهب عامة فلينظر إلى الكتب التي خرجت أحاديثه هذا نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية نصب الراية تجد فيه أحاديث ضعيفة جدا الزعلي حكم عليها بالضعف كذلك في من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه الإمام هذا الإمام قد خرج كتاب إيش؟ منار السبيل في فقه الحنبلي وذكر فيه أحاديث وجد أحاديث ضعيفة جدا فالحاصل أنهم إما أنهم لا يميزون أو لا ليست عندهم قدرة في التمييز أو إذا وجدوا موافقا للمذهب فلا يبالون أنهم يتركون الحديث الصحيح ثم يستدلون بالحديث الضعيف نعم
Pour montrer parmi les méfaits du suivi aveugle de l'école juridique, c'est qu'il y en a certains, dans leur livre, ils ont écrit « Il s'est interdit dans la prière de lever le doigt à la manière des gens du hadith. » C'est-à-dire comme ça, en mettant le cercle et en levant le doigt. Et il dit comme ça, à la manière des gens du hadith. Et subhanallah, certains savants qui sont venus après, ils ont dit que si on ne pensait pas bien du bien de ce savant, on aurait dit que sa parole c'est du kufr, c'est de la mécréance, car il a rejeté clairement, il a interdit une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regardez, le fait de suivre aveuglément une école juridique, ça amène à quoi? Ça amène à rejeter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs, ça amène aussi à rapporter n'importe quel hadith à partir du moment où il vient renforcer l'avis de l'école juridique. Des hadiths inventés, des hadiths très faibles, peu importe qu'ils soient authentiques ou faibles, viennent que à partir du moment où ils viennent appuyer l'avis du madhhab de l'école juridique, ils les rapportent et ils délaissent des hadiths véridiques sur cela. Et d'ailleurs, même parmi les savants qui ont écrit, il y a Nasb al-Raya de l'imam Zaylaï, qui était un muhaddith, qui suivait pourtant l'école Hanafi, qui a sorti tous les hadiths qui sont dans le livre Al-Hidayah. Et combien de hadiths sont faibles et très faibles, et il les a démontrés. De même que l'imam Al-Albani a écrit Manar al-Sabil pour montrer les hadiths qui sont faibles dans ses livres de fiqh.
وكما قلت إن أصحاب المذاهب يعادي بعضهم بعضا حتى يستحل دمه وماله أيضا في كثير من الأحيان نذكر لكم فيما في منهما واقعتان وليست هي نسج خيال إنما وقعت الواقعة كما ذكر الحموي في كتابه معجم البلدان تذكرون طلبة العلم يعرفون معجم البلدان هذا فيه تعريف بلاد الإسلام الري مكة والمدينة وأصبحان وكابول والهند وكذا فيعرف المدن أنها في كذا أو في منطقة كذا وعلى خط الاستواء بتعريف كامل ذكر في ذكر أصبحان قال وقد فشل الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية قد فشل الخراب كأنه قد يكون لأجل التناحرهم يكون قد أغلقت المحلات وكذلك أحرقت البيوت فشل خراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها لا يأخذهم في ذلك إل ولا ذمة مجمع البلدان الجزء الأول صفحة 900
نعم الشرح منار السبيل وكان يروى الغليل
أي نعم الشيخ الألباني نعم
pour le livre de Cheikh Al-Albani en fait il a expliqué le livre Manar al-Sabil le livre de Cheikh Al-Albani s'appelle Irwa al-Ghalil le Cheikh a dit aussi
لا هو تخريج أحاديث منار السبيل
نعم
إرواء الغليل منار السبيل كتاب للحنابلة مختصر في الفقه الحنبلي ففيها أحاديث ضعيفة خرجها الصحيحة والضعيفة كلها خرجها الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في 8 مجلدات نعم
نعم يدي دونك منار السبيل سي ان ليف دي حنابلة اي لو شيخ الألباني ا رابورتي تو لي أحاديث دون 8 توم qui sont dans ce livre, et il a parlé dessus, sur la véracité ou la faiblesse de ces hadiths. Il s'appelle Irwa al-Ghalil. Il dit, parmi les méfaits aussi qu'il y a eu, donc, à cause de l'attachement aveugle à l'école juridique, il rapporte qu'à Isfahan, qui est aujourd'hui en Iran, les Shafi'i et l'Ahnaf, ils se faisaient la guerre jusqu'au point où les boutiques, elles ont fermé, et qu'il y a la corruption qui s'est étendue sur terre, juste à cause de quoi ? Il se faisait la guerre à cause des écoles juridiques. Lui, il est Shafi'i, l'autre, il est Hanafi, comme si c'était des ennemis jurés. Donc regardez, subhanallah, voilà les méfaits qu'ont délaissé l'attachement aveugle aux écoles juridiques, au lieu de revenir au Coran et à la Sunna.
ومضار هذا التعصب المذهبي في الحقيقة تاركين لكتاب الله وسنة رسوله ذكر أيضا الياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان في ترجمة الري مدينة الري عرفها كذا وكذا فقال واتفق أني اجتزت في خرابها في سنة 617 وأنا منهزم من التتار تذكرون أن التتار تتار هؤلاء جنغيز خان وغيرهم قد هاجموا على بلاد الإسلام والمسلمين ومن الغريب أن وراء هذا كان ابن العلقمي نريد إشارة فقط لطلبة العلم كان ابن العلقمي الوزير كان يستوزره الخليفة العباسي إلا أنه كان رافضيا فاستدعاه للهجوم على بلاد الإسلام نعم هذا مما لا ينكر فيه ولا ينكره التاريخيون فالحاصل على كل هل قال ياقوت الحموي في سنة 617 أنا منحزم من التتر وذهبت إلى الري هرب الذي أراد أن يهرب في جهة قدر أن يهرب فهربه يقول فرأيت الحيطان بحالها لقرب أهدها بالخراب يعني الحيطان قائمة فقط في الري حيطان البيوت إلا أنها خاوية على عروشها سقوفها ساقطة على الأرض. فسألت رجلا من وقلائها وقلاء الري، سألت رجلا عن السبب في ذلك، لماذا الجدران قائمة والسقوف كلها طايحة؟ فقال أما السبب فضعيف، يعني ليس سبب كبير، ولكن الله إذا أراد أمرا بلغه أو بلغه. فكان أهل المدينة ثلاث طوائف، مدينة الري كان فيه ثلاث طوائف، شافعية وهم الأقل، وحنفية وهم الأكثر، وشيعية وهم السواد العاظم الأكثرون. وبلاد الري من بلاد خراسان وإيران وكذا، فأحري بها أن تكون الشيعية أكثر، لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة، وأما أهل الرستاق فليس فيه من الشافعية أحد، يعني في القرى القرى التي هي غير المدن الرستاق ليس فيه من الشافعية أحد. يقول فوقعت العصبية بين السنة والشيعة، فتضافر عليهم الحنفية والشافعية، اتفقوا على الشيعة، وتتاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يعرف، يعني قتلوهم أو هربوهم، فهربوا لم يبقى. لما أفنوا الشيعة وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية، ووقعت بينهم حروب كان الظفر في جميعها للشافعية. وهذا مع قلة عدد الشافعية إلا أن الله نصرهم عليه. وكان أهل الرستاق وهم حنفية يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك ويساعدون الحنفية الذين هم في الري، فلم يغنهم ذلك شيئا حتى أفنوهم الشيعة، يعني أبادوهم أهل الشافعية، أبادوا الحنفية. هذا واقع ذكرها، وذكرها غير واحد من هذه الوقائع. يقول الرجل الذي سأله ما هو السبب، قال فهذه المحال الخراب التي ترى هي محال الشيعة والحنفية، وبقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعية وهي أصغر محال للري، ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفي مذهبه. ووجدت دورهم كلها مبنية تحت الأرض، يعني الحنفية خافوا وذهبوا فبنوا دورهم تحت الأرض، ودروبهم التي يسلك إليها إلى دورهم في غاية الظلمة وصعوبة المسلك، فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من الأساكر بالغارات، لولا ذلك لما بقي أحد. انظروا، حروب حصلت لأجل هذه الطائفية أو التعصب المذهبي. فلذلك نهيب بالمسلمين ألا يتعصبوا لمذهب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
Parmi les méfaits justement que le suivi aveugle des écoles juridiques a laissé entre les musulmans, c'est que Yaqut al-Hamawi a rapporté dans Mu'jam al-Buldan que en parlant d'Isfahan, on l'a laissé en en parlant d'Isfahan, que ils sont arrivés, il dit qu'il y a une personne qui s'est sauvée, qui a été dans une ville qui s'appelle Ray, qui était dans le Khorasan, après avoir perdu contre les Tatars. C'était en l'an 617. Après avoir perdu contre les Tatars, donc il s'est sauvé pour se réfugier auprès des musulmans. Et arrivé dans cette ville-là, il a trouvé que cette ville était presque détruite de partout. Il y avait plusieurs maisons où il n'y avait que les murs, les toits étaient jetés au sol, écroulés plutôt au sol, et il n'y avait que quelques maisons et quelques lieux qui étaient encore complets. Il a trouvé une personne raisonnable, dans la ville, lui a demandé que s'est-il passé ici. Il dit c'est une cause faible. Il a dit dans cette ville-là, il y avait des gens de trois groupes, des Shafi'ites, des Hanafis et des Shi'ites. Il a dit au début, les Shafi'ites et les Hanafis se sont mis d'accord, ils sont tous attaqués les Shi'ites et ils les ont sortis de la ville. Une fois qu'ils les ont sortis, après ils ont commencé à se battre entre eux. Il faut savoir que dans les villages aux alentours, il n'y avait pas de Shafi'ites, il n'y avait que des Hanafis. Et c'est ceux qui étaient autour, ils venaient aider les Hanafis de la ville, malgré qu'ils étaient plus nombreux que les Shafi'is. Alors les Shafi'is, ils ont gagné, ils ont réussi à les mettre dehors. Certains sont restés cachés aux alentours dans des maisons sous la terre. et le reste des maisons étaient détruites et il restait que les lieux pour les Shafi'ites qui étaient une minorité. À dire aussi, ça c'est juste au passage, le Cheikh a dit, au passage, que je rappelle qu'il y avait un des gouverneurs à l'époque qui était Ibn al-Alqami, qui était un Rafidi, qui était un chiite. C'est lui qui s'est mis d'accord avec les Tatars et les Mongols pour attaquer. Donc il a vendu les musulmans. Ça c'est juste au passage, ça l'histoire ne le rejette pas. Donc pour montrer que les premiers à vendre les musulmans, c'est toujours les chiites. Ah. Donc regardez comment ce suivi aveugle et le fait de s'attacher aveuglément et de défendre absolument son école juridique jusqu'au point où ils défendent chacun leur religion et leur secte, c'est devenu des sectes, alors c'est devenu la cause de se faire la guerre, la cause de se tuer, la cause de détruire les maisons, tout ça, chacun pour défendre son école juridique.
هذا الكتاب يشتمل على عدة فصول في الحقيقة ونختصر منها قراءة الفصول فقط وهي أنها أولا تعريف الاتباع الاتباع هو أن نتبع الاتباع يأتي في اصطلاح المسلمين اتباع هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلا للتقليد فكل ما وجد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا فهو الذي يأخذ الإنسان هذا هو الاتباع وكذلك من الاتباع إذا عرفت إنسانا أنه لا يتكلم إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن العام إذا سألته مسألة فأفتاني ولو لم يذكر الدليل فهو اتباع لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا قواعد الدين الإسلامي الكتاب وسنة قواعد الفقه الإسلامي القرآن والسنة وكذلك أقوال الصحابة والقياس والإجماع فلا بد أن يكون هذا كله مبنيا على دليل فإذا كان إنسان لا يتبع مذهبا خاصا بل يتتبع الدليل فهذا متبع وكل من يسأله ولو لم يطلب الدليل منه فيكون متبعا ومقابله التقليد هو قبول قول من ليس قوله حجة في الدين بدون دليل هكذا قال فلان وأنا أغمض عيني وأقبل هذا الكلام فهذا الاتباع لا شك فيه هذا التقليد وهو الاتباع مطلوب والتقليد ولا شك مذموم قد ذمه العلماء على مدى الدهر دائما لكنه جاءت الأيام فجمد الناس على التقليد فهنا هذه المسائل التي نذكرها في مسائل الفصل الفصول الذي جاء فيها نقول في ذكر الاتباع ثم في ذكر خلق الناس والغرض من تخليقهم لا شك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وماذا كان على الأمم إذا الرسل كان عليهم من يتبعوه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره كذلك في آية أخرى وأطيعون فالله تعالى أوجب على كل من أرسل إليهم الرسل أن يتبعوا رسلهم وثم بعد ذلك حصلت فترة بين النبي السابق عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس في ضلال مبين حال العالم كله كان في الحقيقة عند ذاك الوقت في فساد وكما ذكر التاريخيون ويعترف به حتى من غير المسلمين أن جميع بلاد العالم كانت في ضلال مبين ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتلقى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم فكلما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه ولم يكونوا يعملون فيه الفكر والرأي ثم أمر الله تبارك وتعالى ورسوله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه في أحاديث كثيرة آيات كثيرة وكذلك أحاديث كثيرة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم آيات كثيرة في هذا وكذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم نعم زيد الله
Donc, dans ce livre, il y a plusieurs chapitres. On va donner un résumé de chaque chapitre, Inch'Allah. Le premier chapitre, c'est de reconnaître que veut dire le suivi, qui est le contraire de l'imitation aveugle, c'est-à-dire du taqlid. Le suivi, c'est l'ittiba'. Et le taqlid, on pourrait le traduire par l'imitation aveugle, imiter. Et le suivi, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce avec quoi il est venu, de la vérité, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vérité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même la personne du commun qui va demander à une personne de science la fatwa, en vérité, il n'est pas imiteur, il n'est pas en train d'imiter aveuglément. Il est en train d'appliquer le suivi. Pourquoi ? Car Allah Ta'ala a dit « Fas'alou ahla dhikrin kuntum la ta'lamoun » Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc il a fait en cela que obéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, même si la personne qui lui fait la fatwa ne lui donne pas de preuves, mais c'est une personne à qui on doit revenir dans la science, alors on n'appelle pas ça l'imitation aveugle ou l'attachement à un avis aveuglément, mais on appellera plutôt ça du suivi. Car il a suivi en cela l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le contraire de l'ittiba', le contraire du suivi, c'est le fait de suivre aveugle, enfin pas de suivre, le fait de répéter ou d'imiter aveuglément l'avis de quelqu'un, et c'est le fait d'accepter la parole d'une personne qui ne mérite pas et qui répète tout simplement sans preuve la parole d'une autre personne. Et on voit que cela est contraire donc au suivi. Parmi les chapitres qui viennent dans ce livre, c'est le fait que tous les prophètes et les messagers, ils sont venus avec l'ordre du suivi. Tous les messagers sont venus appeler leur peuple à leur obéir, ce avec quoi ils ont été envoyés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le monothéisme pur ou dans toutes les obéissances qui concernent la législation en général. De même, la manière dont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont écouté et appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont pris la science de lui et qu'ils ont en cela suivi sans aucune contestation ni sans aucune hésitation. Allah tabaraka wa ta'ala, il y a dans plusieurs versets, dans plusieurs hadiths, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné clairement de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés.
وقطعا أننا نعرف أن المسلم أن البشر قد خلقوا مختلفين في الفكر والرأي والفهم فكان يحصل الاختلاف في الصحابة أيضا لكن عندهم الميزان الصحيح مما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ومما أتاهم الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذا استعرضنا الوقائع بعد النبي صلى الله عليه وسلم في صحابة رسول الله فوجدنا أن منهجهم عند الاختلاف كلما سمع شخص حديثا كان يخضع له وقد ذكرت لكم من قبل حديث أبي موسى الأشعري أنه ذهب إلى عمر في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان كتاب باب البوابين فقال رضي الله عنه ورحمه ذهب أبو موسى الأشعري وطرق باب عمر رضي الله عنه ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فخرج عمر رضي الله عنه قال من كان طارقا فقالوا إنه أبو موسى الأشعري فقال لماذا رجع فقال رجعت أو لماذا رجعت قال رجعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ولم يؤذن له فليرجع فقال لتأتي النبي على هذا من يشهد لك وإلا لا فعلنا بك كذا وكذا فذهب وقام محمد بن مسلمة أصغرهم وشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضع له عمر رضي الله تعالى عنه كذلك لما اختلفوا في أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قرأ بعض الصحابة أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يموت عبد نبي إلا حيث يحب أن يدفن فيه فرفعوا فراش النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من الغرفة وحفروا قبره صلى الله عليه وسلم في موضع قد قبضت روحه صلى الله عليه وسلم. كذلك في مسائل في مسألة الخلافة لما اختلفوا وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، كل هذا في الصحاح موجود. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش فبايعوا كلهم أبا بكر رضي الله عنه. وهكذا لما كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلاف في فهم مسألة وهم بعيدين، إذا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بالحق بالوحيين. كذلك هم كانوا يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو الواجب على الصحابة وهو الواجب إلى يوم القيامة على كل مسلم فيما يختلف في دين الله تعالى. ثم تغير الحال وبدأ الناس يقلدون والتاركين لسنة رسول الله بعض الأئمة وتعصبوا على هذا كما هو معروف. نعم.
Nous savons tous que l'être humain, les êtres humains sont différents dans leur compréhension et qu'ils divergent, qu'ils n'ont pas les mêmes compréhensions, qu'ils n'ont pas la même approche des choses et qu'ils divergent sur plusieurs points. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit concernant ce point-là, le fait que les gens divergent, « Wa intanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul » Si vous divergez sur un point, alors retournez-le à Allah et à son messager. Donc, et voilà comment le musulman doit agir pour régler toute divergence, différence de compréhension, revenir à Allah, tabaraka wa ta'ala, au Coran et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a vu auparavant le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, quand il est venu frapper trois fois, ça c'est dans le Bukhari, dans Bab al-Isti'zan, trois fois à la porte d'Omar ibn Khattab. Puis il est reparti. Omar est sorti, il a dit qui a frappé? Il a dit c'est moi. Il a dit pourquoi tu es parti? Il a dit car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire si une personne demande la permission trois fois et on ne lui dit pas d'entrer, alors il repart. Il dit tu vas m'amener un témoin sur cela, sinon tu vas voir ce que je vais faire de toi. Il a été à la mosquée, il a demandé à quelqu'un et Mohammed ibn Maslama qui était le plus jeune, il est venu témoigner avec lui et Omar s'est plié à cela. Donc dès qu'on lui a donné le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plié à ce jugement-là. De même, pour quand les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont divergé après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où vont-ils enterrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont discuté, ils ont divergé, où est-ce qu'ils vont l'enterrer? Et certains d'entre eux ont rapporté la tradition où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète meurt là où il devrait être enterré. Donc ils ont déplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de où il est mort. Et ils ont creusé la tombe à cet endroit-là et ils l'ont enterré là où il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont pliés. Dès qu'ils ont vu que c'était une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils s'y sont pliés. De même, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il fallait savoir entre les muhajirin et les ansar, les exilés et ceux qui les ont accueillis et hébergés parmi les habitants de Médine, alors qui allait être le calife et le représentant, c'est-à-dire le dirigeant des musulmans, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a eu cette discussion et qu'ils ont discuté pour savoir qui pouvait faire cela, alors Abu Bakr leur a cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith sahih véridique, que les imams, les dirigeants font partie de Quraysh. Alors ils se sont tous pliés et ils ont accepté la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le dirigeant faisait partie de Quraysh. Et ils ont fait l'acte d'allégeance à Abu Bakr radiallahu anhu. Donc, tant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était vivant et que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient loin de lui, s'il divergeait en un point, il revenait à lui et demandait son jugement et s'y pliait tous. Après sa mort, ils ont continué de pratiquer cette attitude, mais comment? En revenant à ses paroles, en revenant au texte qu'il a laissé au Coran et à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis aux paroles et aux d'approbation et aux actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour juger leurs actes. Et c'est de cette manière-là que tous les musulmans doivent juger leurs différences et doivent juger leurs divergences jusqu'au jour du jugement dernier.
هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الثاني ومن أقدم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفي عليه باب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب وهو خليفة في زمانه إلى الشام فأخبر أنه قد وقع به الطاعون فقال بعضهم كيف تدخل وقد وقع به الطاعون قال أنفر من قدر الله هذا قدر الله لا نهرب فقرأ بعض الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بأرض قد وقع فيه طاعون أو وباء لفظ وباء وفيه الطاعون غيره وكان في طاعون عمواس في عهد عمر في الشام فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بأرض فيه وباء فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها ولا تخرجوا منها ولما قال عمر رضي الله عنه أنهرب من قدر الله فقال الصحابي نهرب من قدر الله إلى قدر الله الذي قدر لنا وعمرنا نعمل به فامتنع عمر لأنه علم أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدخل ورجع ولما انتهى الأمر فدخل مرة ثانية فنقول هكذا كان الأمر ثم جاء التعصب المذهبي حتى إن الذي يدعو إلى التمسك بالسنة أو الكتاب والسنة نجد بعض الكتب من المتعصبين يقول هؤلاء سخفاء العقول وهذا موجود في كتابه كذلك هؤلاء ضالون دجالون كذابون ومن جملة ما قال هذا الشخص قال أنه عملاء للمستعمرين يعني لليهود النصارى وأن أيدي خفية تحركهم حتى يعني يدخلوا الخلاف بين أهل المذاهب ويدعوهم إلى الكتاب والسنة أن هذا على كل أهل نحن لا نقول في هذا الشيء يكون مخالفا لأدب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لو فكر وتأمل عرف بطلان قوله هذا و يعني على كل حال ماذا نقول أنه ربما يجهل نفسه بنفسه لكنه ونذكره بقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومثل هذه الألقاب التي تلقبون به أهل السنة والسلفيين الذين هم يريدون أن يرجعوا بالدين إلى زمن الصحابة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا فيهم ما شئتم لكن لا بد أن تعرفوا أن الله تبارك وتعالى يحاسب كل كلمة يتكلم بها الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عندنا وقت موجود
هذه الساعة كأنها معطلة
لكن 8 الآن
نعم
طيب نستمر ولا شيء
لا قليلا حتى طيب. تستريحوا وبعد طيب. المغرب السؤال والجواب
طيب
ونواصل بعد العصر
إن شاء الله الله يبارك جزاك الله خير
نقف هنا
أي
عمر بن الخطاب رضي الله عنه qui était un des plus anciens qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès la Mecque et qui est le deuxième calife de l'islam. Pourtant, il y a certains hadiths, certaines sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne lui sont pas parvenus. La preuve de cela, c'est quand il a voulu aller en Grande Syrie, au Cham, il est arrivé et il y avait une épidémie qui sévissait en Syrie. Pour entrer, on lui a dit, comment on va entrer alors qu'il y a l'épidémie ? Il a dit, est-ce qu'on va se sauver de la destinée d'Allah ? Puis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit, au prince des croyants, on a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, si vous arrivez dans une terre où il ne faut pas entrer dans une terre où il y a une épidémie qui sévit, et si vous êtes dans cette terre où il y a une épidémie, n'en sortez pas. Donc, Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'est assuré que c'était une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'y est plié directement. Les gens sont venus lui dire, comment tu t'enfuis de la destinée d'Allah ? Il a dit, je m'enfuis de la destinée d'Allah vers la destinée d'Allah. Donc voilà comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand certaines sunnahs, certaines traditions ne leur étaient pas parvenues, ou leur étaient inconnues, quand elles leur parvenaient, ils l'acceptaient, ils s'y pliaient directement. Puis après cela est revenu l'imitation et l'attachement aveugle aux avis des différentes écoles juridiques qui a divisé la communauté et qui a d'éloigner les gens de revenir au jugement d'Allah Ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jusqu'au point où certains qui défendent l'attachement aveugle à ces écoles juridiques, ils prétendent et ils insufflent le doute sur les gens qui appellent au hadith, les gens du hadith, les gens de la sunna, que ces gens-là, ils travaillent pour les ennemis de l'islam, pour les gens qui sont venus diviser les musulmans, mettre les doutes sur les écoles juridiques des musulmans, alors qu'en vérité, c'est eux, en délaissant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont détruit l'islam à sa base. Alors que les gens de la sunna ne sont qu'appelés à s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
N'a-t-il pas quelque chose de ça, de la imam rahmatullahi
wa sallam? Non, non, tafadda,
Cheikh. ولذلك نقول أن الذين يقلدون أئمتنا وهم كلهم أئمتنا لا نقول هذا إمامي ونترك الثاني وهذا الوضع في الحقيقة أيضا وهذه الحالة قد يودي بعضهم أن يسب حتى الشافعية حتى الحنفي وحتى أبو حنيفة يسب بعضهم بعضا سبحان الله ومن هنا جاء بعض المتعصبين وقال إن الله تبارك وتعالى إنه يأتي من بعد رجل اسمه محمد بن إدريس وهو أضر على الأمة من إبليس. شوفوا مثل هذه التعصبات الله نصر. ونحن نؤمن بأن أئمتنا هؤلاء كلهم كانوا سلفيين يعني متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكلهم أمرونا بالاتباع لا بالتقليد. انظروا قول أبي حنيفة رحمه الله وهو الإمام الأعظم رحمة الله عليه بمعنى أنه أول إمام في السن قال إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صح الحديث هذه كلها مشهورة معروفة لكن أين المتعصبون الذين يتركون حديث رسول الله لقول نسب إليه من الغريب هذا شيء جدا غريب جدا الآن مثلا ومن الغريب أنهم لا يتبعون الإمام أيضا أنا قرأت كتاب الأصل للإمام الأصل للإمام محمد بن حسن الشيباني الذي هو السؤال والجواب يسأل الإمام ويجيبه الإمام قال رجل يقول الله بزرق ترست فارسية هذه الله أكبر هذه ترجمتها بالفارسية الله بزرق ترست وبدأ بالصلاة ثم قرأ آيتي يعني كلمة واحدة مترجمة مدهامة لأنه سورة الفاتحة ما هي واجبة عندهم فقال قرأ مدهامتان لأنه هو الذي يتيسر له لأن الله تعالى قال فقره ما تيسر فقال مدهامتان بدل أن يقول مدهامتان دو باغ سر سبز است باللغة الفارسية هذا في كتاب الأصل موجود الذي هو سؤال وجواب من الإمام ثم بعد ذلك لم يسلي لم يقرأ في السجدة السجدة هو وضع الركوع الانحناء والسجدة وضع الجبهة على الأرض ولم يقرأ شيء قال الإمام صلاته صحيح موجود هذا في كتابه هذه نقطة والنقطة الثانية ما دام الإمام يجيز القراءة بالفارسية في الصلاة فلماذا لا تجيزون الخطبة باللغة لغات المختلفة هم لا يجيزون الخطبة الخطبة لابد أن يقرأ الخطبة بالعربية ولا يجوز أن يترجم ولذلك في الحقيقة يضيعون أشياء كثيرة جاءت أهواء مختلفة فقلدوا الإمام ثم قلدوا الذي قلد الإمام في قوله تاركا للإمام فهنا الإمام يؤكد إذا صح الحديث فهو مذهبي يجب أن يكون كل واحد يقول من ينتسب إلى الإمام يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي كذلك يقول ترجم هذا الله إذا صح الحديث فهو مذهبي
nous ne disons pas tel est mon imam ou tel est mon imam toutes les quatre imams et les autres imams parmi les savants de la sunna qui étaient des salafis qui suivaient les salafs salih ce sont tous nos imams et on ne prend pas un pour délaisser les autres et pour montrer cet attachement aveugle aux écoles juridiques et l'imitation, le fait d'imiter aveuglément, ça a mené jusqu'au point où ils inventent des hadiths sur les imams et des mensonges sur eux. Jusqu'au point où ils ont dit que le prophète aurait dit, donc il ne l'a pas dit bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va venir après moi un homme qui s'appelle Mohamed Idris, il est pire pour ma communauté que Iblis. Il parle que de l'imam Shafi'i. Comment le prophète, ils inventent des hadiths carrément pour insulter et même insulter les autres imams. Voilà à quoi ça mène l'attachement aveugle à ces écoles-là. Alors que l'imam Abu Hanifa lui-même a dit, si la tradition, le hadith est véridique, il est authentique, alors c'est mon école juridique. Où ils sont ceux qui le suivent de ce hadith? Ils n'ont pas réellement suivi l'imam Abu Hanifa, car ils suivaient, s'ils suivaient, ils écoutaient ce qu'il a dit, alors ils auraient pris sa parole quand il a dit que si le hadith est authentique, alors c'est mon école juridique. Il a été rapporté dans le hadith le livre Al-Asl de Mohammed ibn Hassan al-Shibani, où il y avait des questions-réponses avec Abu Hanifa. Est-ce que si quelqu'un il dit Allahu Akbar en perse, alors il l'a dit, le cheikh, vous l'avez entendu, la parole perse, je ne pourrais pas la répéter. S'il dit cette parole-là en perse, est-ce que c'est valable? Il dit oui. Et il dit, au lieu de lire Mudhammatan, ils l'ont traduit en perse, Mudhammatan. Hein, parce que pour eux, lire la Fatiha, ce n'est pas un pilier de la prière. Ils l'ont dit en perse, il dit oui, c'est valable. Alors regardez, s'ils s'attachent aveuglément à ces paroles-là, au lieu de suivre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils autorisent de prier, de faire la salat dans une autre langue que la langue arabe, mais pourtant ils interdisent fermement de faire le prêche du vendredi en autre qu'en langue arabe, et même de la traduire. Donc si vraiment ils autorisaient ça dans la salat, comment alors dans le prêche? Donc regardez les contradictions dans lesquelles ils tombent quand ils s'attachent aveuglément à une école juridique sans revenir au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وقال الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي ترجم الله
ترجمته
وإذا قال إذا
si le hadith est authentique l'imam a dit c'est mon école juridique
وقال إذا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه وحرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي
ترجم واحد
أي نعم.
Il a dit, il n'est pas permis à celui qui ne sait pas d'où nous avons dit notre parole, d'où on a puisé pour dire notre parole, de suivre notre parole. Et c'est interdit pour quelqu'un qui ne connaît pas nos preuves de suivre notre école.
وقال مخاطبا لأبي يوسف الذي اسمه يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف وكان من أخص وأعظم تلاميذه قال له يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني أرى اليوم الرأي وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد.
Et il a dit à son élève Abu Yusuf, qui était Yaqub ibn Ibrahim, qui était un de ses élèves les plus rapprochés. L'imam Abu Yusuf, il est connu. Il lui a dit, oh Yaqub, n'écris pas tout ce que je dis, car je peux dire une parole aujourd'hui et que je change d'avis demain, ou bien je dis une parole demain et que je change d'avis le jour d'après.
والإمام مالك رحمه الله مالك الإمام أهل المدينة قال إنما أنا بشر أخطي وأصيب فانظروا في رأيي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وما لم يوافقه فاتركوه.
الإمام مالك رحمه الله c'était l'imam de Médine, de la maison de l'exil. Il a dit, je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'un être humain et je peux me tromper. Regardez mon avis, s'il est conforme au livre et à la sunna, au livre d'Allah et à la sunna, alors prenez-le. Et s'il est contradictoire au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors délaissez-le.
Wa qad dhakarna lakum qissat ibn Wahab annahu sa'alahu ba'd an-nas an al-takhlil bayna asabi' ar-rijlayn 'inda al-wudu fa qala ma li laysa 'ala an-nas dhalik. فلما أخبره ابن وهب بالحديث الصحيح في هذا أخذه الإمام.
aussi Ibn Wahb qui était l'élève de l'imam Malik, il a entendu que les gens ont questionné l'imam rahimahullah sur le fait de passer de frotter entre les doigts de pied dans les ablutions. Alors l'imam Malik a dit ils n'ont pas besoin de faire cela. Puis l'imam Ibn Wahb rahimahullah a énoncé cela à l'imam Malik rahimahullah. A cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui affirmait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait cet acte-là. Alors l'imam Malik est revenu sur sa parole et faisait après cela, il disait aux gens de passer les doigts entre les orteils quand il faisait les ablutions.
وكان يقول ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرة أخرى أشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم وقال إلا صاحب هذا القبر.
Puis il a dit, il n'y a personne après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans que l'on puisse prendre une partie de ses paroles et délaisser le reste, sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre fois, il était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a montré, sauf la personne qui est dans cette tombe, c'est-à-dire sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de lui, on peut prendre et délaisser la parole de qui on veut.
وأما الإمام الشافعي أيضا فعنه أشياء كثيرة روية أنا من هذا المعنى ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول الله وتعزب عنه يعني ربما تغيب عنه سنة من سنة رسول الله فمهما قلت من قول أنا أيضا قد تغيب عني بعض الأحاديث فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قولي.
الإمام الشافعي رحمه الله a dit il n'y a pas une personne sans qu'une partie de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم lui échappe ou qu'il ne la connaisse pas. Il a dit alors tout ce que j'ai pu dire comme parole ou bien fondé comme fondement et que les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم sont contradictoires à cela, alors
آخر الكلام
قال فالقول إذا قلت قولا أو أصلت من أصل خلاف حديث رسول الله فالقول ما قال رسول نعم. الله وتركه به.
Alors, si j'ai dit une parole qui est contradictoire à la parole du prophète صلى الله عليه وسلم ou j'ai fondé un fondement contradictoire à cela, alors la parole qu'il faut prendre c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم.
وأيضا قال أجمع المسلمون اتفق المسلمون إذا كان إجماع معناه علماء الأمة عامة وتابعين ويتبعونهم العامة فأجمع المسلمون يعني لم يخالفوا أحد على أن من استبان له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد.
الإمام الشافعي رحمه الله a dit il y a le consensus des musulmans, c'est-à-dire des savants des musulmans et de ceux qui les suivent, que si quelqu'un il lui a été apparu clairement la sunna du prophète exposée, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a été clairement exposée, clairement apparue, alors il n'est pas permis de ne pas la suivre.
وكان يقول مخاطبا للإمام أحمد أنتم أعلم بالحديث والرجال يعني رواة الحديث الذين يعرف بهم صحيح الحديث وضعيفهم أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا حديث من أهل الكوفة أو من أهل البصرة بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا نعم.
الإمام الشافعي رحمه الله disait à l'imam Ahmed et aux muhaddithin vous connaissez mieux les hadiths et les hommes dans la chaîne de transmission que moi. Alors si il y a un hadith qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, informez-moi-en que ce hadith vienne des gens de Koufa ou de Basra ou des gens du Sham, alors pour que je puisse parler et, avec ce hadith et dire le même avis que ce hadith.
Wa kana yaqulu rahimahullah kullu mas'alatin fiha al-khabaru an rasulillah bi khilaf ma qultu fa ana raji'un anhu fi hayati wa ba'da mawti.
Et il a dit toute annonce ou parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est contradictoire à ce que j'ai pu dire, alors je reviens sur ma parole de mon vivant et après ma mort.
فكان الإمام أحمد كان الإمام الشافعي رحمه الله أقوال كثيرة حيث إنه جاء وهو ولد في سنة 150 وتوفي في 204 نعم 150 والإمام أبو حنيفة رحمه الله توفي في سنة 150 فجاء متأخرا وكان التعصب قد انتشر أكثر ولذلك جاءت عنه أقوال كثيرة ولذلك الإمام أحمد جاء آخرهم فنقلت عنه أشياء أكثر من الشافعي من جملته كان الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل كان يكره وضع الكتب في التفريعات يعني مسألة ثم بدون دليل يقول مسألة ومسألة ومسألة ويذكرون هكذا في الكتب فكان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي رأي فلان ورأي فلان كان يقول اكتبوا الحديث وآثار الصحابة واستفيدوا منها الأحكام كان لا يرضى أن توضع مثل هذه الكتب التي فيها في كتب المذاهب يكون بدون ذكر الدليل ما كان يرضى. نعم.
Imam Shafi'i رحمه الله est né en l'an 150 de l'Hégire et mort en 204. Et il est né en fait la même année que l'imam Abu Hanifa est né. Et c'est pour cela... Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Ah, excusez-moi. Il est né la même année, l'année où l'imam Abu Hanifa est mort. J'ai dit né? Excusez-moi, c'est un lapsus. Il est né la même année où l'imam Abu Hanifa, rahimahumullah jami'a, est mort. J'ai dit né, c'est vrai. Et c'est pour cela qu'on trouve plus de paroles chez l'imam Shafi'i qui parle du fait de suivre, car à son époque, l'attachement aveugle aux écoles juridiques a commencé à se répandre plus qu'à l'époque de Abu Hanifa, rahimahullah, qui était plus proche de l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal est venu encore après cela, c'est pour ça qu'il a beaucoup de paroles sur cela. D'ailleurs, l'imam Ahmed ibn Hanbal n'aimait pas qu'on écrive trop les livres sur la jurisprudence, qui sont faits d'une manière où on parle, par exemple, d'un chapitre, un sous-chapitre, un sous-chapitre, un sous-chapitre, où il y a plusieurs questions qui sont traitées sans énoncer les preuves en détail. Donc, il demandait plutôt qu'on réunisse les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les avis et les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'en profiter.
وكان قد انتشر التقليد في بداياته في جميع الأئمة. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا يعني من كتاب الله وسنة رسول الله. نعم.
Et comme l'attachement aveugle à comment et l'imitation des imams a commencé à se répandre, alors l'imam Ahmed il a dit ne m'imitez pas aveuglément et n'imitez pas l'imam Shafi'i et n'imitez pas Malik ni al-Awza'i ni al-Thawri, mais prenez plutôt d'où ils ont puisé, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna.
ثم وكان يقول أيضا رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي هو عندي سواء إنما الحجة في الآثار.
Et il disait l'avis de Malik, de Abu Hanifa ou de Awza'i, de l'Awza'i ou de Abu Hanifa ou de l'imam Malik, tout cela ce sont des avis, pour moi ils sont égaux. Pour moi, ce qu'il compte, la preuve, c'est ce qui vient avec des hadiths et des textes rapportés.
ونقول هذه بعض أقوال الأئمة رحمة الله عليهم ومن جملة ما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله من رد حديثا أخاف أن يبتلى بالشرك. قال الله تبارك وتعالى الآية التي فيها فليحذر الذين يخالفون أمره عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الفتنة الشرك. فبذلك كانوا يتشددون على التعصب لرأي أحد ورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا يعني الماء وبعض الأشياء من أهل المذاهب أنهم يردون الحديث الصحيح لا شك فيه. لكن من عجيب أمر أهل المذاهب أن الفقه في الأخير قسموا قسمين، وفي زمن الصحابة الفقه في العقيدة والفقه في الأحكام كله فقه، وهو معنى قول الله عز وجل قول الله تعالى ليتفقهوا في الدين وليرجعوا إلى قومهم. وكذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني في عقيدته في مسائل العقيدة، وكذلك في مسائل الفروع الصلاة والزكاة وكذلك النكاح وكذلك المعاملات والأخلاق كلها. لكن فيما بعد قسموا قسمين، الفقه الأكبر والفقه الأصغر. والفقه الأكبر لا شك في أعظم شيء وأول شيء هو فقه في العقيدة والتوحيد وإقامة التوحيد. فنجد أغرب ما يكون في أهل المذاهب أنهم يجمدون على قول الأئمة في مسائل الفروع في الأحكام ويتركونهم كما أشرت يتركونهم ولا يقلدونهم في مسائل العقيدة الذي هو الفقه الأكبر. نعم.
نسيت بداية الكلام.
ما كتبت بالضبط.
خذها خليك نسخة أخرى بعدين.
أين هو؟
هذا هو رأي الأوزاعي.
هذا قلناه. نعم خلاص.
Aussi l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit celui qui refuse ou qui rejette une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui la délaisse,
J'ai peur pour lui de tomber dans le polythéisme. Car Allah tabarak wa ta'ala a dit que prennent bien garde ceux qui contredisent à son ordre, c'est-à-dire à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne soient pas touchés par une tentation ou par un châtiment douloureux. La tentation, l'imam Ahmed a dit, fitna ici, c'est le shirk. C'est le shirk. Et on a vu dans les paroles des écoles juridiques combien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont délaissé. Jusqu'au point où même le fiqh, la compréhension d'Allah, des lois d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont divisé en deux, alors qu'autant des compagnons, tout cela pour eux, c'était le fiqh, la compréhension des lois d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme en ce qui concerne la croyance et les actes. Sans aucun doute, les règles liées à la croyance sont, la croyance est quelque chose de plus important, mais sauf que eux, quand ils l'ont divisé en deux, ils ne l'ont pas traité de la même manière et ils ont en cela délaissé le retour au Coran et à la Sunna en appelant la connaissance de la croyance le fiqh al-akbar, puis les autres le fiqh la connaissance dans les choses parmi les actes. Alors qu'Allah tabarak wa ta'ala n'a pas différencié entre cela et il a dit qu'un groupe d'entre eux sort liyatafaqahu fi d-din, pour qu'ils apprennent et qu'ils comprennent la religion. Et ça, cela comprend bien sûr la croyance, le dogme et les actes. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion. Et ceci n'exclut aucune des deux sciences, ni le dogme, ni la jurisprudence.
ذكر الأئمة رحمة الله عليهم أن هناك كتابا باسم الفقه الأكبر ينسبونه إلى الأئمة روى فيها ابن تيمية وغيرهم ثبتوا هذا القول أو نقلوا هذا القول من هذا الكتاب قال أبو مطيء البلخي الذي روى هذا الكتاب عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفع أحدا به من الإيمان يعني إذا كان سرق زنا فلا يقال إنه صار كافرا ولكن لا شك في أنه فاسق يسمى إذا لم يتب فقال لكن لا يصل إلى حد الكفر ولا يقال أنه كافر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك ولا تتبرع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
De même qu'ils sont rapportés, Ibn Taymiyyah rahimahullah, que le livre Fiqh al-Akbar, qui est connu chez les Ahnaf, que Abu Muti', il a dit, Ibn Abdullah al-Balkhi, a dit, j'ai demandé à Abu Hanifa sur le Fiqh al-Akbar, sur le plus grand des fiqh, de la connaissance, la plus grande connaissance ou la plus grande compréhension selon Allah et son prophète. Il a dit, tu ne rends pas quelqu'un, tu ne rends personne mécréant à cause d'un péché. Et tu ne dis de personne qu'il n'a pas la foi à cause d'un péché. Et tu conseilles le bien. Et tu interdis le blâmable. Et tu sais que ce qui t'a touché n'aurait jamais pu te rater. Et ce qui t'a raté n'aurait jamais pu te toucher. Et tu ne te désavoues de personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
وأيضا قال أبو مطيع البلخي سألت الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا رجل يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن العرش استوى وأرشه فوق سماواته وهذا لا نشك أن الإمام والأئمة الآخرون كلهم كانوا على هذا الفهم على ما توارثوا من الصحابة والتابعين وهم وأتباع التابعين فقال إنه على العرش قال قلت لرجل قلت إن رجلا يقول إن الله على العرش لكنه لا يؤمن بأن العرش في السماء أو في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء ولأنه تعالى في أعلى إليين وفي رواية أخرى قال لأن الله تعالى قال آمنتم من في السماء وهكذا أقوال أخرى منقولة ويمكن أن يرجع الإنسان إلى فتاوى ابن تيمية، كذلك الذهبي في كتاب له العلور إلى علي الغفار، وقد لخصه واختصره الشيخ الألباني بصحاح الأحاديث. نعم، كذلك مالك رحمه الله أيضا كان على هذه الشاكرة في العقيدة. قال ابن وهب: كنت عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، مخاطبا لمالك رحمه الله، قال: يا أبا عبد الله، الرحمن العرش استوى. فأطرق مالك رأسه وأخذته الرحضاء العرق الشديد، ثم رفع رأسه فقال: نعم، الرحمن العرش استوى كما وصف نفسه به، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة، أخرجوه. يعني لما قال كيف استوى، فقال فأخذ مالك رحمه الله العرق الشديد، أطرق رأسه ثم رفع رأسه فأجاب، قال: نعم، أنت تسألنا الكيفية، الرحمن العرش استوى، استوى، لأن الله تعالى قال الرحمن العرش استوى، نؤمن به، لكن لم يخبرنا عن الكيفية، لا ندخل في الكيفية، متربع جالس أم كيف أم كيف إلى آخره، لا ندخل في هذا، لأن هذا سؤال بدعة، وليس لا يجوز لنا أن نسأله. نعم.
Il a été rapporté aussi d'Abu Mudir al-Balakhi qu'il a demandé à l'imam Abu Hanifa si une personne dit je ne sais pas est-ce que Allah est dans le ciel ou sur terre. Abu Hanifa il a dit il est mécréant car il renie en cela il a renié en cela la parole d'Allah qu'Allah il s'est établi sur son trône et son trône il est au-dessus de ses créatures de Fissama il est élevé au-dessus de ses créatures subhanahu wa ta'ala. De même que l'imam, vous pouvez retrouver tout ça dans le Fatawa d'Ibn Taymiyyah, en détail, les paroles de l'imam Abu Hanifa et d'autres a'imma, et aussi dans le livre de l'imam Zahabi, que l'imam Al-Albani rahimahullah a résumé. De même que l'imam Malik rahimahullah était assis, une personne est entrée, il lui a demandé, « Oh imam, Abu Abdillah, Allah Ta'ala s'est établi sur son trône, comment ?» Il a baissé la tête, il a commencé à suer. Il a relevé la tête, il lui a dit, il s'est établi sur son trône, et la façon dont il s'est établi est ignorée, et la question est une innovation, sortez-le-moi de la mosquée. Sortez-moi, je ne te vois comme un innovateur, sortez-le-moi de la mosquée. Donc voilà comment les imams répondaient, et comment était leur croyance.
Fi riwayatin ukhra, an Yahya bin Yahya wa Jafar bin Abdullah وطائفة بهذه اللفظة ذكر الذهبي في كتاب العلو قالوا جاء رجل إلى مالك فقال يا أبا عبد الله الرحمن العرش استوى كيف استوى قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجدته من مقالته يعني غضب واهتم لهذا القول وما رأيت مثله اهتم أو هم والغم وعلاه الرحضة يعني العرق الشديد وأطرق القوم كلهم لما رأوا مالكا في هذه الحالة فسري عن مالك زالت هذه الحالة وقال الكيف غير معقول لأن الله تعالى لم يخبرنا به الاستواء منه غير مجهول لأن الله تعالى قال الرحمن العرش استوى والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضالا فأمر به فأخرج أي من مجلس مالك رحمه الله. نعم.
الإمام الذهبي يوصي غمان dans ce livre العلو dans une autre version, une personne est entrée et lui a demandé Abba Abdillah, Allah s'est établi sur le trône, comment ? Et il a sué fortement. Il n'a pas été affligé par une parole comme il a été affligé par cette parole. Elle l'a beaucoup touché et elle a été douloureuse pour lui d'écouter cette parole-là. Et il a levé la tête, il lui a dit le comment n'est pas compréhensible. Et le fait qu'il s'est établi n'est pas inconnu, c'est-à-dire que c'est une chose qu'on connaît, et le fait de questionner sur cela est une innovation, j'ai peur pour toi que tu sois égaré, sortez-le-moi de la mosquée.
وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله نقلت عنه أقوال كثيرة في العقيدة ولكن الواقع أن الشافعية يخالفون كما يخالف المالكية كما يخالفون الحنفية أقوال أئمتهم في العقيدة ويذهبون إلى مذهب العشاري ما تريد إلى آخره الشافعي رحمه الله قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها السنة هنا المقصود منها العقيدة الصحيحة المقصود منها قطعا ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان الإمام سفيان ابن عيينة ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء وذكر سائر الاعتقاد الأخرى أيضا نعم.
De même que l'imam Shafi'i a affirmé cette croyance-là. Et là, on voit que ceux qui suivent l'école juridique Shafi'iyya, ils l'ont contredit dans la croyance. Tout comme les malikites qui disent qu'ils suivent l'école malikite, mais ils ne suivent pas l'imam Malik dans la croyance. Ni même les ahnaf, ils suivent plutôt l'ash'a'ira, la croyance ash'arite ou la croyance maturidite. Ils ne disent pas ce que leur imam disent dans la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. Quand ils ont demandé à l'imam Shafi'i, il a dit la sunna. Il faut savoir que le mot sunna, il peut être utilisé dans plusieurs sens. Ici, la sunna, c'est dans le sens, le chemin, la croyance sur laquelle on est, l'islam. Il a dit, ce sur quoi j'ai trouvé Sufyan ibn Uyayna et Malik, c'est qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, et que Mohammed est son messager, et qu'Allah est sur son trône dans les cieux, et qu'il s'approche de ses créatures comme il veut, et il descend au plus bas ciel comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et on voit que ceux qui ont défendu après, soi-disant, qui sont tous du madhhab al-Shafi'i, ils disent le contraire carrément de leur imam.
وأن يونس بن عبد العال أحد تلاميذ الشافعي قال سمعت الشافعي يقول لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية بالروية والفكر ويثبت هذه الصفات وينفي عن التشبيه كما نفى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
عفوا المقالة.
أيوة أن يونس بن عبد العال هنا وهنا أيضا.
يونس بن عبد الأعلى il a dit j'ai entendu l'imam Shafi'i رحمه الله تعالى que Allah a des noms et des attributs. Il n'est pas permis à qui que ce soit, à qui la preuve a été établie de ses noms et de ses attributs, de les rejeter. Et il a dit, celui qui contredit cela, après que la preuve lui a été établie, alors c'est un mécréant. Mais si il a réfuté cela avant que la preuve lui ait été établie, alors il est excusé à cause de son ignorance, car c'est une chose, la connaissance de cette chose-là ne peut pas être connue par la raison ou par les rapporteurs ou la réflexion, mais cela ne peut être connu que par la révélation.
كذلك الإمام أحمد رحمه الله وهو معروف وأتباعه معروفون والتاريخ الصادق يصدق بأن أتباعه هم الذين كانوا يصححون عقائد الناس ويدافعون عن عقيدة السلف طول القرون الماضية إلا قليلا منهم قد زلت بهم ألسن وزلقت أقدامهم قال بعضهم أنه قد مال بهم الهوى إلى أهل المناصب وغيرهم الله المستعان فكان الإمام أحمد رحمه الله في كل زمان وهو في حياته كان حامل لواء التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة ثم أتباعه ولا شك الآن في آخر هذا الزمان لا الذين هم الآن العلماء المملكة العربية السعودية وهذا حق يقال ولا بد أن يقال لأن الناس في الحقيقة في جهل أو في دعايات كاذبة يقولون إن علماء المملكة هم حنابلة في الحقيقة بمعنى الصحيح في العقيدة وكذلك في الفروع لا يقلدون أحدا والحمد لله لما ملك الملك عبد العزيز ناصية بلاد الجزيرة وكانت تعج بالمذاهب الحرم مقسوم بين أهل المذاهب وكذلك مكة والمدينة كان يعتبر مجمع الأقوام والمذاهب كلها مجاورين وغيرهم علماء فلما ملك الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله الملك الراشد زمام المملكة الحمد لله رب العالمين قد أنهى كل العقائد الباطلة ودرس هو وأولاده الذين لقيتهم من أبنائه هم علماء في العقيدة الصحيحة سبحان الله ويعرفون دقائق العقائد حفاظ كتاب الله والحمد لله خدمت هذه الدولة على عقيدة ما لم تخدم كذلك الحديث والقرآن ما لم يخدم على طول قرون ستة أو سبعة من بعد ابن تيمية رحمه الله وهذا أمر ليس لا أقوله تعصبا أشهد الله تعالى على معرفة بالتاريخ ومطالعة بالتاريخ الصحيح هذا واحد
Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, et ses élèves, ceux qui l'ont suivi après, ce sont ceux qui ont le plus défendu cette croyance, sauf très peu de gens qui se sont prétendus suivre la voie de l'imam Ahmed et ibn Hanbal, rahimahullah. Ils ont défendu cette croyance et ils étaient tous sur cela d'affirmer la croyance véridique. Et en réalité, on voit, alhamdulillah, sauf certains qui ont été trompés, ou bien qui ont eu des penchants vers des places ou des biens de ce bas monde, et alors ils ont délaissé cette parole. Mais sinon, la majorité des gens qui ont suivi qui ont pris les enseignements d'Imam Ahmed ibn Hanbal, ils se sont attachés au suivi, et surtout dans la croyance, et ce sont été ceux qui ont été les plus probants et les plus prompts à défendre la croyance véridique et authentique. Et aussi, justement, même dans les siècles derniers, le roi Abdelaziz, qui avait pris donc le roi d'Arabie, quand il est entré, il y avait toutes les écoles juridiques, des avis différents, des croyances différentes. Il a, alhamdulillah, appelé les gens à la croyance véridique et travaillé et s'est mis au service du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, ceux que j'ai rencontrés parmi même ses enfants, c'était des gens qui connaissaient les détails de la croyance authentique et qui étaient des connaisseurs du Coran et des gens qui mémorisaient le Coran en entier, non pas comme ceux qui font maintenant des fausses publicités ou bien qui prétendent de fausses rumeurs sur eux. Et il n'y a personne en réalité, je ne dis pas ça je dis ça en connaissant l'histoire et j'ai bien étudié l'histoire et je connais les détails de l'histoire du monde musulman. Et je vois que depuis l'époque d'Ibn Taymiyyah jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui ont travaillé pour répandre la croyance véridique et le Coran et la Sunna comme a travaillé les gens de ce pays. Et en vérité, les gens disent que les savants de ce pays sont des Hanabila, ils sont sur le madhab Hanbali. En réalité, ce ne sont pas des gens qui s'attachent aveuglément à ce madhab et à une école juridique, mais il s'attache à la voix de l'imam Ahmed dans la croyance et dans le fait de suivre le hadith. Dans le fait de suivre le hadith et le fait de suivre que la preuve, elle est avant tout dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Wa akhiru hadha al-majlis, ou al-qawl al-akhir fi hadha al-majlis, annahu min al-gharaib allati waqat wa la yumkin an yunkiraha ahad, anna ad-din kulluhu wahid سواء كان عقيدة وأحكاما وفروعا أو سلوكا وتزكية تزكية النفس لكن جزأوا هذا الدين عقيدة فقلدوا فيها بعض الأئمة وأحكاما وفروعا فقلدوا فيها بعض الأئمة ثم جاء مسألة تزكية النفس الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي بعث به الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بالكتاب والسنة كان تزكيتهم أيضا فذهبوا فأوجدوا مذاهب في الطرق والسلوك فقالوا هذا طريقة الأشعرية وهذا طريقة النقشبندية تشتية قادرية تيجانية رفاعية الله المستعان أنا أريد أحد يناقشني في هذا الشيء لماذا هذا التفرق فرد واحد يتجزأ أجزاء كثيرة فأنا أطالب هؤلاء الإخوان عامة فردا فردا أن يجعلوا كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعوه في عقيدته وفي أحكامه وكذلك في طريقة السلوك والتزكية ولا بيعة في دين الله أبدا إلا للخلفاء فلا بيعة هذه بدعة بيعة غيرها بالبدعة دال وعين. بالحقيقة هذا أمر إن لم نقل فقد نخون هؤلاء الإخوة الذين يأتون من مكان سحيق ليسمعوا الحق. وأنا أقدر أن أحلف أن هذا هو الحق لا شك فيه لو كنت بين المقام وبين الكعبة المشرفة. فنريد من أحاد الأمة وأفراد الأمة أن يجعلوا أنفسهم كلها في العقيدة والأحكام والسلوك والتزكية والمعاملات تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نطلب من أصحاب المذاهب أن يغيروا مجراهم، ولعل هذا يكون محالا، لكنه على كل حال لعل الله يضع هذا القول بالقبول لبعض الأفراد في الحقيقة، أن يجعلوا جميع المذاهب ينضموا ما في مذهب واحد وهو مذهب الإسلام. وأئمتنا كلهم هم أئمة الإسلام، اختلفوا فنحن نحكم ونتحاكم إلى علماء الذين هم علماء الأمة ما هو الراجح من أقوالهم، فنحسب كل هؤلاء الأئمة أئمتنا. فمرة يرجح لنا قول الإمام أبي حنيفة نقبله، يفتي لنا مرة ثانية بما يوافق قول الشافعي فنقبله، وهكذا حتى يقل الخلاف إن لم ينعدم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخ أدي Et il a dit, je finis avec ça, cela, et je pense que la conclusion est très importante, que ce qui est étonnant, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a laissé une religion unique, une source, une compréhension de la religion et une science qui englobe tout, la croyance, les détails des pratiques religieuses, de la législation, de la jurisprudence, et dans tout ce qui concerne l'éducation et la purification de l'âme, et eux, ils sont venus, ils ont partagé cela en trois. Une seule et même personne, elle s'est divisée en trois. Dans la croyance, elle suit des dogmes et des croyances erronées, Ash'arite, Maturidite, je ne sais quoi. Dans les détails et les branchements et les branches de la jurisprudence, il prétend suivre les imams, mais il n'en prend qu'un, et il prend toutes ses paroles, ou même parfois les paroles de gens qui se disent de cet imam, mais qui ne sont pas les paroles de l'imam. Et dans l'éducation et la purification de l'âme, ils prennent des voies erronées et égarées, et ils font l'acte d'allégeance sur des groupes et des voies soufites, comme le Naqshbandiya, le Jashkiya, le Qadiriya, le Tijaniya, le Rifa'iya, etc. Et il dit, Wallahi, si j'étais, je peux vous jurer, même si j'étais entre la Kaaba et le maqam d'Ibrahim, la station d'Ibrahim, que tout ceci est faux. Et que ce n'est pas la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Il a dit, si, j'appellerai tous les gens de tous les madhhabs. Et ça, je pense que c'est presque impossible. Mais au moins, alors, à chaque membre, aux gens, aux individus de la communauté, de délaisser tout cela, de délaisser tous les madhhabs, toutes les écoles, pour avoir une seule école, l'école de l'islam. D'avoir un seul suivi, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de dire que tous ces imams, ce sont tous nos imams. Et que l'on suive parmi leurs paroles ce qui est le plus juste ou le plus probant. Et que l'on revienne aux savants qui puissent différencier et peser entre les paroles de ces imams qui nous ont précédés et prendre les paroles les plus justes et les plus probantes dans chaque point de la croyance ou de la législation. D'ailleurs, dans la croyance, il n'y a pas de divergence, mais dans les points de la législation. Et dans les points de l'éducation et de la purification de l'âme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec tout cela. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager parmi eux qui leur récite ces versets et qui les purifie. Donc, le prophète, la purification elle est dans le Coran et la Sunna, la purification de l'âme, et non pas dans des tariqas, dans des sectes soufites. Qui chacun appelle à des adorations ou des croyances erronées. Donc j'appelle chacun à revoir sa personne et à s'attacher au Coran et à la Sunna, que ce soit dans la croyance et que ce soit dans les détails, les branches de la pratique religieuse et de la jurisprudence, et aussi dans ce qui concerne la purification de l'âme et l'éducation de son âme, car tout ceci est apporté dans l'islam. Et en faisant cela, quelle
qu'est-ce qui va se passer? Alhamdulillah, les rangs de la communauté vont se resserrer et la division, si elle ne va pas se disparaître, au moins elle va diminuer au maximum.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولعل الله يلقينا ان شاء الله بعد قليل لعل الله تبارك وتعالى يجعلنا نستفيد من هذه المجالس وهو المطلوب ان شاء الله ان لم يكن انا اؤكد شيئا اخر في الحقيقه ان هذا المجلس مجلس الحديث ومجلس الحديث عن كتاب الله وسنه رسوله يجب علينا كلما جاء ذكر اسم ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان نصلي ونسلم عليه هذا واجب ولا نبخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فهذا بركه المجلس على الاقل 100 مره او اكثر من 200 مره ان شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان انا ارى ان الشفاه لا تتحرك بالفعل واقع الامر فانا اؤكد عليكم اننا كلنا ان شاء الله ان لم نستفي شيء الا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه عشرا ان شاء الله السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته juste je rappelle que quand nous avons entendu au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam si dans cette assise on faisait juste la prière et la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam combien on gagnerait combien je vois de lèvres devant moi qui ne bougent pas quand je dis le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc au minimum on dit cela inshallah On se retrouve après le Maghreb pour les questions-réponses. Barakallahu fikoum.